Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un jeune homme de 22 ans qui a le gabarit d'un joueur de basket. Assez beau gosse, stylé, un peu bobo, disons-le, qui vit à Paris et qui cherche du boulot. Il a fait des études de sociologie et c'est comme ça désormais qu'il essaie de regarder le monde, en sociologue. Une façon de penser ce qu'il vit en termes de faits sociaux, de rapports de force et de classe, de domination, et d'observer la façon dont circule l'argent, le pouvoir. Une façon de prendre du recul, de se protéger peut-être quand il fait des petits boulots. Et pourtant, il n'est pas bégueule, il ne rechigne pas, il n'est pas snob ni condescendant, et ça lui plaît d'être bagagiste et de comprendre comment ça marche. Alain Lefkovitch l'a rencontré en cherchant des histoires d'hôtels. On avait même pensé se faire engager dans un 5 étoiles comme Sofical à l'époque, pour voir de l'intérieur ce qui s'y passe, les caprices des gens riches, la dure vie des femmes de chambre, ou bien le contraire, la dure vie des gens riches et les caprices des femmes de chambre. Mais ça n'est pas la peine, car aujourd'hui on a Armand qui nous raconte les dessous de la vie d'un grand hôtel, tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
Je m'appelle Armand Charles, j'ai 23 ans. Mes parents sont issus de régions rurales, donc la Drôme et l'Ain. Ils sont rencontrés aux arts appliqués de Lyon. Ils sont arrivés à Paris à l'âge de 22 ans à peu près. Mon père travaillait dans une boîte de production qui faisait des films d'animation en pâte à modeler. Et ma mère était illustratrice graphiste. Donc on faisait beaucoup de musées, beaucoup d'ateliers de dessin. Mon père, il faisait des éléphants roses en papier mâché qu'il accrochait au plafond quand il n'avait pas de travail. Ma mère dessine des animaux complètement loufoques. Donc on s'occupe toujours avec la création chez nous. Mais il m'a aussi donné une vision du monde qui est, peu importe les sacrifices qu'on doit faire, le but de la vie c'est d'avoir un job qui te plaît, s'amuser, créer. Et moi j'ai pas trop suivi cette voie. Je me suis toujours construit du coup en parallèle de mes parents et de mes deux sœurs qui sont aussi deux artistes. J'ai toujours rejeté ça, notamment en faisant beaucoup de sport. Jamais je touchais un crayon parce que c'était ce que mes parents attendaient de moi, quoi. Et moi j'ai toujours été très observateur parce que je suis notamment issu d'une famille nombreuse dont j'étais le dernier. On était 5. Mon père a 4 sœurs et chacune de ses sœurs a au moins 3 enfants. Donc on faisait des Noëls, on était 60 et il y avait une vingtaine, trentaine d'enfants. Et je me cachais souvent pour observer comment ceux qui se sentent à l'aise interagissent et pouvoir copier ou essayer de me construire en essayant d'éviter les comportements qui me dérangeaient. Et donc après, j'ai fait des études de sociologie. La sociologie, ça a toujours été un poste d'observation idéal pour moi. J'ai fait une licence, j'ai fait 2 masters pour au moins prouver que une autre voie était possible dans ma famille. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de jobs différents, des jobs pour avoir de l'argent de poche. J'ai travaillé dans beaucoup de secteurs, l'hôtellerie, les librairies, j'ai travaillé dans la SNCF. Mais j'ai jamais pu faire de restauration dans ma vie parce que j'étais trop maladroit et trop grand et trop nonchalant. Je suis grand, blanc, barbu, les cheveux mi-longs, je suis 1m90, je suis assez balèze. J'ai un langage corporel qui fait que je suis souvent rejeté des établissements sous haute tension, donc par exemple la restauration, où j'ai fait en tout 3 essais de 2 jours, et à chaque fois dans 3 restaurants différents, je me suis fait virer au bout du 2e jour. Et je suis maladroit, donc quand je passe dans les allées des cafés, je me prends des tables, je prends beaucoup mon temps, et surtout j'observe beaucoup trop. Et dans un travail où il faut toujours être en action, c'est complètement l'opposé de ce que je suis. Mais je voulais quand même travailler dans un établissement où je sais que bah il y a une certaine intensité. Et comme je voulais vraiment m'approcher du milieu du service, je me suis rapproché d'un hôtel 4 étoiles, ils disent 4 étoiles premium, donc avec des ambitions de 5 étoiles. Mais c'était aussi une espèce de forteresse, parce que c'est un hôtel de 35 étages avec 950 chambres. Et je suis rentré dans l'hôtel au poste de bagagiste. Donc bagagiste, dans la pyramide que c'est cet hôtel, c'est les postes les plus bas. C'est ceux qui côtoient les femmes de chambre et les agents de sécurité. Et donc, quand j'arrive, je côtoie des pères de famille qui font la sécurité de l'hôtel, qui font des 12 heures par jour, debout toute la nuit dans l'entrée de l'hôtel, qui on ne demande rien et à qui personne n'a le droit de parler parce que ça nuirait à la réputation des services de l'hôtel. Et si, par exemple, le patron passe, déjà quand le patron passe, c'est garde à vous, tout le monde, droit comme un i. Quand il passe et que tu es en train de parler avec un agent de la sécurité, et encore pire que tu rigoles avec lui, il va te prendre dans un coin, il va te dire bah, maintenant tu arrêtes tout de suite, et tu sors, tu te mets devant l'hôtel, même s'il fait froid, et tu attends qu'un client y vienne. Le bagagiste commence à 6h, il peut finir à 14h. Et s'il commence à 14h, il finit à 23h. C'est souvent aux heures les plus improbables qu'il se passe les choses les plus intéressantes. Donc soit le matin, soit le soir. Par exemple, à 6h, on peut voir soit le mec qui a passé une nuit endiablée et qui revient complètement cuit, qui gare sa moto devant l'hôtel, complètement bourré. On peut voir des clients complètement arrachés qui sont dans le lobby de l'hôtel et qui crient en peignoir qu'on leur apporte à manger, mais quand tout est fermé, bah, ils font des scandales. Et c'est un poste aussi qui était parfait pour moi parce qu'il permet l'observation de tout, en fait. Le bagagiste, c'est le seul qui a la clé de toutes les chambres. Et c'est... celui qui est le plus confronté, on va dire, à cette différence qu'il y a entre ces milieux. Parce que là, c'est vraiment le grand écart entre la femme de ménage et le mec qui habite dans un hôtel 4 étoiles, qui paye sa chambre 300 balles par nuit et qui reste des mois entiers. Et donc, j'ai un poste d'observation privilégié sur même la vie privée, en fait, de ces clients qui sont généralement des personnes très riches et oisives. Par exemple, un monsieur qui habitait dans l'hôtel, et parfois il l'a quitté pour un week-end, on l'arrangeait, et après il revenait le lundi matin. Il y avait toujours ses vêtements à laver, les femmes de ménage repassaient toujours ses chemises, et je les posais toujours au même endroit, dans la même chambre. C'était la chambre la plus grande de l'hôtel, c'est la seule suite avec deux cuisines. En fait, on avait accès à toute sa vie privée, parce que juste en le voyant rentrer dans l'hôtel. Parce que le lundi, parfois, il allait chercher sa fille à l'école, il la ramenait à l'hôtel. Donc, on le voyait passer avec des sacs de jouets. Il lui avait acheté un super camion Playmobil. Je la voyais jouer avec et tout. Deux jours plus tard, on le revoit accompagné du coup de la personne qui devait être sa femme. Parce que bah, ils sont avec la fille. Ils se font des blagues, ils ont l'air bien et tout. Et le samedi soir, je le vois toujours dans sa chambre d'hôtel, mais accompagné de deux grandes femmes de 1m80, perchées sur des talons de 10 cm, qui quittent la chambre à 4h du matin. Moi, le lendemain matin, je vais ranger la chambre, je tombe sur une scène d'adultère, quoi, avec des coupes de champagne entamées, des boîtes de préservatifs ouvertes. Des traces de poudre blanche sur la table et des macarons entamés, c'est vraiment l'impression d'être d'être à Versailles, quoi. Le pire, c'est aussi que les réceptionnistes se renseignent sur la vie des clients. Et du coup, en plus, on a des informations complémentaires qui font que cette personne n'a plus aucun secret pour nous, en fait. Parce que le but du réceptionniste, c'est aussi de... prévoir les futures demandes des clients et de les combler avant qu'ils ne le demandent. Parce que là, on se dit, ah ouais, l'hôtel, il est efficace, quoi. Il pense à tout ce que je cherche, quoi. Et s'il y a des gens qui habitent dans l'hôtel, c'est que c'est bon signe, en général. j'arrive dans l'hôtel, je suis formé par un bagagiste qui s'appelle Damien, qui est un bagagiste qui a 25 ans d'expérience dans cet hôtel. C'est un monsieur qui arrive avec des chemises en soie, des grosses lunettes, des pantalons et des petits mocassins et tout. Des habits qui coûtent super cher et qui arrive au vestiaire, du coup, qui se change et qui met son petit veston comme tout le monde, quoi. Parce que le vestiaire, c'est le même pour tout le monde. Que ce soit l'employé du bureau ou le cuisinier, on se retrouve tous au deuxième sous-sol dans des vestiaires qui... avec des vieux casiers, on dirait une prison, le truc, avec des mecs qui prient dans un coin parce qu'ils n'ont aucun autre endroit où ils peuvent le faire. Et du coup, ce cher Damien m'explique les règles du bagagiste. Donc, mon job, c'est de prendre les valises des clients qui arrivent dans l'entrée et de les accompagner, de leur expliquer ce que c'est l'hôtel, les accompagner faire leurs enregistrements et après de monter avec eux dans l'ascenseur et ramener leurs valises en chambre. Le plus important, c'est de créer le plus de complicité avec le client pour, à la fin, avoir un tips, donc avoir un pourboire. Je suis le client dans l'ascenseur et là, c'est à moi d'essayer de faire des blagues, d'essayer de trouver d'où vient la personne. Donc souvent, je demande est-ce que vous avez fait un bon vol ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Pour qu'ensuite, le client me réponde et que je puisse embrayer sur... d'autres questions qui fait que le client se sent écouté, donc se sent à l'aise dans l'hôtel. Une fois que ça s'est fait dans l'ascenseur, j'ouvre la porte. Normalement, je dois juste poser les bagages et m'en aller. Mais ça, c'est une autre règle qu'on m'a appris. C'est que il faut rester le plus longtemps possible dans la chambre ou devant la porte pour parler avec le client. Et que... ils se sentent tellement chez lui qu'après, ils donnent de l'argent, quoi. Donc, c'est rentrer dans la chambre avec lui, lui montrer comment marche la télé, comment on peut appeler pour avoir à manger, parler un peu de Paris, se proposer des endroits où aller. Et je joue le vice jusqu'au bout. Donc, je soulève les valises, je fais des petites réflexions sur le poids de la valise. Je savais pas que vous avez ramené vos haltères dans votre valise. Comme généralement, c'est des gros beaufs américains, ils sont « Oh, 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 nice joke !» Et quand je parle de sport avec un grand-père, j'essaye de montrer que moi aussi, je fais du sport, parce que comme ça, il est content de voir un jeune qui s'entretient. Ils aiment bien qu'un Français avec un accent bien français les serve, quoi. Généralement, l'homme se lève, ouvre son portefeuille et me donne un billet. On est vraiment dans la séduction, quoi. Si par exemple un client arrive dans l'hôtel, costard bien taillé, belle cravate, petite mallette, je vais tout de suite lui demander d'où est-ce qu'il vient. Parce que c'est forcément quelqu'un qui a voyagé, parce qu'il est dans un hôtel commercial au milieu de Montparnasse. Personne vient là pour les vacances en costard. La personne me dit, je sais pas, mettons, d'Écosse. Je vais parler du temps pluvieux. Je vais parler de l'accent écossais. Je vais faire des blagues dessus. C'est là-dessus que j'appuie, en fait. C'est que je sois un peu ton meilleur pote dans l'hôtel. Parce que t'es venu tout seul pour un truc qui a l'air chiant, genre bosser un voyage... une conférence ou un truc comme ça. T'as un espèce de mec qui est à ton service, à qui tu peux parler de n'importe quoi, et même si derrière, il y a un objectif lucratif. Un jour, il y a deux hommes qui arrivent devant l'hôtel avec quatre valises, ou deux chacun. Et une des règles des bagagistes, c'est on prend un client tout seul. Donc j'emmène le monsieur, et le monsieur est québécois. Il me fait quelques jokes, bon, pas très marrantes, mais le mec a l'air jovial. Genre, ça a l'air nul à l'intérieur, il me dit. C'est une blague québécoise, mais vous devriez pas rentrer. Donc là, ça le fait rire, et donc on avance. Donc il voit que je réagis à sa blague, il est content, il rigole, et du coup, je lui demande d'où il revient, pour avoir une grosse valise et un chapeau de cow-boy pareil. Et il me dit, on rentre d'une session de chasse. Je lui dis, ah ouais, ça se passait où ? Il me dit, Zanzibar. Donc là, ça m'intrigue. Je me dis, chasser à Zanzibar, c'est quand même pas quelque chose de courant quoi chez moi. Ni une ni deux, il ouvre son téléphone, il me sort une photo de lui avec un pied sur la tête d'un lion et fusil de chasse à la main, grand sourire et son pote à côté qui lâche des thumbs up, qui des petits pouces en l'air. Donc là, ça m'a donné une toute autre image de ce Québécois assez marrant. Ça m'a tout de suite un peu refroidi, mais quand j'arrive dans sa chambre, il me sort une liasse que j'avais jamais vu ça de ma vie. C'était une liasse en escargot qui ressemble, ça faisait là une bonne balle de handball, quoi. Et le mec feuillette ses billets et me donne, je crois, 2 billets de 20. Bon, j'avais hésité à lui refuser par valeur, mais bon, je me suis dit quand même, l'argent est mieux dans ma poche que dans la sienne.
France Culture, les pieds sur terre.
Il n'y a que 10 employés de l'hôtel sur à peu près 100 qui ont un salaire qui dépasse les 4000 euros. Les personnes de l'administration ou le chef cuisinier ou les gestionnaires de l'hôtel. En dessous, on a les réceptionnistes qui sont payés presque au SMIC. Hein. Ils ont un salaire moyen, quoi. Les bagagistes et les agents de sécurité sont payés au SMIC, comme les femmes de ménage et les cuisiniers. Le bagagiste peut être la personne la mieux payée de l'hôtel par le tips. Mais il y avait plusieurs règles quand on rentre en tant que bagagiste. C'est au sein de l'hôtel, ne jamais parler de ces tips, parce que sinon ça crée de la jalousie dans tous les autres secteurs. Et après, les gens vont se plaindre à la direction, et la direction gèle les salaires des bagagistes parce qu'ils ont trop crié sous tous les toits qu'ils avaient plus d'argent que les autres. Et même entre bagagistes, il faut jamais dire combien tu as pris sur un tips, parce que ça peut créer de la jalousie entre les bagagistes. Pourquoi ça peut être le job le mieux payé de l'hôtel? Parce que sur une journée, je peux faire entre minimum 30 et 200 euros de pourboire. Mon argent des tips, c'est mon argent pour vivre. Mon salaire, j'y touche jamais parce que je fais toujours beaucoup en pourboire, quoi. Après, du coup, ça pousse au vice parce que ça me fait une espèce de démarche intéressée du bagagiste, mais voire vicieuse, parce que y a un côté où on choisit nos clients au faciès, à la dégaine. Le fait d'avoir toujours été observateur, d'avoir observé de toutes sortes de milieux et toutes sortes de comportements, en fait, je sais comment je dois me comporter pour pouvoir récolter de l'argent. Ça fait que j'ai une approche qui est complètement presque cynique, en fait. Je sais ce que je dois te dire pour que tu me donnes ce que je cherche. Je ne sais pas si je peux appeler ça de la manipulation, parce que c'est plus de l'orientation. Mais à la première phrase lancée, on sait ou pas si la personne va donner le tips, parce que derrière, on a tout un schéma de blagues, de conversations, de sujets qui sont déjà prévus, en fait. On sait sur quoi on va devoir appuyer pour avoir le tips. Alors, il y a des clients que j'évite, notamment les familles qui arrivent par exemple à 8 personnes avec 2 valises par personne, comme il y a la règle de devoir tout prendre tout seul. Ça fait quoi? Ça fait des vingtaines de bagages, sacs à monter en chambre pour parfois ne même pas avoir de tips. Donc c'est de la force physique, de la force mentale et du temps donné à ces personnes pour finalement avoir même pas parfois un sourire ou un merci. C'est assez usant et donc ça crée une espèce d'aigreur chez moi qui fait que finalement, en fait, je vais jouer le jeu du vice et du bagagiste. Je vais choisir mes clients et je vais attendre derrière la porte et éviter les personnes qui ne m'intéressent pas, quoi. Les clients que je repère directement et que je sais qu'ils vont rien me donner, c'est le père de famille français, poivre-sel, qui arrive avec sa femme qui va me faire des petites blagues en arrivant, qui va me parler un peu de la vie, qui va en fait me considérer comme un mec comme lui, jusqu'à ce que j'arrive devant sa chambre et que je pose ses affaires. Et là, c'est un merci beaucoup avec les yeux et la bouche, comme si je lui avais rendu le service du siècle, mais c'est juste un merci, quoi. Ce genre de client considère que un merci, un bon merci, ça vaut tout l'or du monde parce que c'est une vraie interaction. Mais c'est toujours marrant de voir le contraste entre comment un Français va te parler et comment un Américain va te remercier tout en te donnant un énorme tips parce que tu as fait ton travail en fait. C'est un hôtel où il y a 5 bagagistes entre guillemets titulaires, mais le jour où il y a par exemple des grosses arrivées, l'hôtel va engager des intérimaires. Et en fait, Damien, il savait que quand il y avait des gros camions, généralement c'était des retraités américains en plus qui faisaient des croisières, donc c'était les meilleurs clients possibles pour lui. En fait, il me donnait la formation des intérimaires à moi, qui avait, que je devais avoir quelques semaines d'expérience, pendant que lui, il pouvait du coup aller directement parler aux clients et avoir des tips. Quand on a une arrivée de bus de compagnie de voyage, on a souvent 200 personnes qui arrivent devant l'hôtel et donc 200 personnes qui ont 2 valises chacune. Donc 400 valises qui sont posées devant l'hôtel et les bagagistes doivent les faire rentrer le plus rapidement possible dans les bagageries, les trier et ensuite les envoyer en chambre. Tout le sel de cette opération, c'est d'arriver à mettre les bagages dans les chambres quand le client est en chambre. Parce que si le client nous voit arriver, lui donner ses valises, c'est sûr qu'il va donner, surtout un client américain. Et du coup, ce que faisait ce cher Damien, c'est que pendant que moi et les bagagistes intérimaires, je formais les bagagistes intérimaires, je triais toutes les valises, donc 400 valises triées par numéro de chambre, lui venait prendre les valises et les mettait en chambre. Aller directement, en fait, droit au but, donc ramasser le plus possible, quoi. Et je savais que c'était comme ça, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. C'est une démarche assez... C'est individualiste, quoi. La première année, je disais rien parce que bon, je trouvais ça même marrant, en fait. Mais avec le temps, en fait, à force de travailler et de partager ce travail et voir aussi dans quelles conditions les nouveaux arrivent et comment, en fait, on leur explique même pas qu'il y a autant d'argent à se faire par le tips. Aussi du fait que c'était moi qui formais les nouveaux alors que j'étais sûrement le moins ancien de l'équipe. Ça a fait que petit à petit, ça a commencé à me faire beaucoup réfléchir, même à me dire qu'il y a quand même une injustice là-dedans que l'ancien y ramasse pour le travail des autres, en fait. Est arrivé un moment où c'était mon dernier jour de travail, parce que après ça, je suis jamais revenu. C'était du coup pour une arrivée de 200 voyageurs, une compagnie de voyage américaine. Je me suis retrouvé à devoir gérer une équipe de 4 bagagistes et de leur expliquer comment ranger les valises. Et du coup, on triait, on voyait du coup Damien et 2 autres anciens prendre les valises et toutes les ramener en chambre et avec un grand sourire parce que nous, on était rapides pour trier et eux, ils étaient rapides pour envoyer. Donc, ils tombaient souvent sur les clients dans leur chambre, des clients contents, et des clients contents, donc des tips. Et donc, j'ai fini par faire cette remarque à ce cher Damien, parce que c'était un manque de solidarité, quoi. Je vois arriver à la bagagerie tout sourire après avoir pris je sais pas combien de tips. Je dis, Damien, en vrai, là, nous, on bosse derrière, enfin... On n'a pas vu un client de la journée. En vrai, c'est pas correct de m'avoir laissé, moi, gérer ces 4 extras en intérim qui n'ont jamais vu le métier pendant que toi, t'es parti prendre le récolté. Du coup, il commence à s'énerver parce qu'il dit que je l'accuse de prendre tout pour lui. et on s'échauffe. Puis on est vite séparés. Et après, à partir de là, je me suis dit, ce travail, il est trop prenant, et physiquement, et maintenant, mentalement, parce que je vais devoir travailler avec ce mec que maintenant, je ne supporte plus. Donc, je suis jamais revenu dans l'hôtel après ça. C'était devenu trop. Et en fait, comme je comptais pas passer ma vie là-dedans aussi, j'avais une espèce de recul qui faisait que je trouvais ça encore plus insupportable, en fait. Parce que j'avais cette observation de voir, en fait, à quel point c'était individualiste comme métier, en fait. Il n'y a pas d'équipe. Le but, c'est de rentrer chez soi à la fin de la journée avec les poches qui font le plus de bruit possible, quoi. Ça a été une drôle de conclusion sur ce travail, parce que au sein même des personnes qui sont censées faire groupe et faire équipe, en fait, il y a cette concurrence de je dois soit faire mieux que toi aux yeux de l'hôtel pour pouvoir m'élever, soit faire mieux que toi à ma propre échelle pour faire plus d'argent que toi à la fin de la journée. Et, parce qu'un type qui n'est pas pris par un bagagiste, ce sera pris par celui d'après, quoi. Tout le monde est interconnecté, mais personne ne travaille pour l'autre.
C'était Le Bagagiste Sociologue, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Eric Lancien. Merci à Armand Charles, à Vadim Essayant, à Ariane Chuillon. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien. Sachez que Les Pieds sur Terre, c'est aussi sur scène et en public, comme ce dimanche 16 mars, où on vous invite au théâtre de la Concorde, à Paris, pour entendre des histoires qui se passent en 2020, pendant la pandémie. Il y en a des drôles et d'autres moins. Il reste ou restera de la place à 14h30 ou à 17h30. Il y a des nouvelles places qui se libèrent régulièrement. Plus d'infos sur notre site ou sur celui du théâtre de la Concorde. On vous attend nombreux et nombreuses. He'll take all your memories and turn them to gold. Eyes are like angels, but his heart is cold. No need to ask, he's a smooth operator. Just a smooth operator. He's a smooth operator. Such a smooth operator.